Voici un cours d'histoire ancienne de Jacqueline Christian. Athènes, une démocratie de sa naissance à sa mort. Première émission, Athènes archaïque.
La cité des Athéniens, la plus célèbre des cités grecques, occupe dans l'Antiquité la presqu'île de l'Attique et y ajoute, du 8e au 6e siècle, la plaine d'Eleusis située vers le nord-ouest, près de Mégare, l'île de Salamine qui bordait cette côte et qui intéressait d'ailleurs aussi bien le port du Pirée que Nicéa, le port de Mégare, d'où la rivalité des deux cités, et enfin le territoire d'Europoste, au nord-est, qui contrôlait le passage vers Érythrée en Eubée. Au total, un territoire d'environ 2600 km², soit à peu près, pour avoir un ordre d'idée, le Luxembourg. L'Attique était bordée au nord par la Béotie, qui, elle, formait non pas un État unifié, mais un ensemble de cités que Thèbes, la plus puissante d'entre elles, essaye de fédérer à son profit. Le territoire de l'Attique est typiquement grec. La pluviosité y est faible, la luminosité importante, les hivers plutôt doux et les étés secs. Le sol est largement formé de sèches collines calcaires, parmi lesquelles on relève le Pentélique, qui sépare la plaine d'Athènes de celle de Marathon et qui fournit de beaux marbres, et celle du Laurion vers le sud-est de l'Attique, célèbre pour ses mines de plomb argentifères, qui fourniront à Athènes une de ses principales ressources. Les plaines comprennent, outre celles qui entourent Athènes, la plaine d'Éleusis, siège d'un culte célèbre de Déméter et Corée, les déesses des moissons, plaine séparée d'Athènes par le mont Égaleos et le mont Parnasse. Athènes était le principal lieu urbain de l'Attique et le centre de la vie politique, mais il y avait bien sûr en Attique de nombreuses autres bourgades, et la majeure partie de la population vivait en dehors d'Athènes, dans tous ces petits bourgs ruraux. Bien que minuscule à nos yeux, la taille de l'État athénien était exceptionnelle en Grèce ancienne. Et, pour expliquer ce phénomène, les Athéniens eurent recours au mythe de Thésée, que vous trouverez exposé dans Plutarque 24.1 et 3, ou, plus brièvement, dans Thucydide 2.15-16, mythe rappelant le synœcisme, c'est-à-dire l'unification de l'Attique. Historiquement, comme je vous l'ai rappelé, nous n'en percevons que les derniers ajouts. Au IXe et VIIIe siècle, Athènes est, nous révèle l'archéologie, un important centre céramique, le plus important sans doute de la production géométrique. Est-ce à ce phénomène qu'elle dut de ne pas participer au grand mouvement de la colonisation qui, du VIIIe et VIIe siècle, peupla les côtes nord de la Méditerranée de cités grecques? On l'ignore, mais ce sont surtout ses voisines, Mégare, Corinthe, Chalcis et Érythrée qui fondent des colonies. Seulement, la céramique corinthienne se développe et commence à faire prime au 7e siècle. En même temps, Athènes apparaît comme une cité en crise, comme d'ailleurs beaucoup de cités de la Grèce archaïque, mais sans donc utiliser le remède de l'immigration. À cette crise, les Athéniens vont opposer les autres solutions élaborées par les Grecs, la législation et la tyrannie. L'essentiel de nos informations sur cette période se trouve dans le texte d'Aristote, appelé la Constitution d'Athènes, texte retrouvé à la fin du XIXe siècle sur un papyrus égyptien. Il ne nous en manque que le tout début. Malgré tout, les renseignements que nous avons sont très peu de choses et bien difficiles à interpréter. Il semble qu'à l'époque, Athènes était gouvernée par des archontes choisis parmi les membres des grandes familles, sans doute les grands propriétaires fonciers et les membres de leur entourage. À leur sortie de charge, ces magistrats entraient au conseil de l'aréopage, c'est-à-dire qui siégeait sur la colline d'Arès. Or, dans la seconde moitié du 7e siècle, il semble que les problèmes économiques et sociaux font contester l'ordre social et qu'une lutte s'installe pour tenter de s'opposer à la mainmise des grands propriétaires sur les terres, peut-être par le biais de l'endettement. Mais nous n'en savons à peu près rien. Nous ne voyons que le phénomène dit de la stasis, c'est-à-dire des luttes sociales. La première tentative dont nous avons mention est d'ordre tyrannique, expliquée par le fait que l'aspirant à la tyrannie, qui se nommait Cylon, était le gendre de Théagénès, tyran de Mégare. Cylon était un jeune noble, mais il se heurta à une vive résistance des autres nobles, c'est-à-dire de ceux qu'on appelle les eupatrides, autrement dit les bien-nés, les gens de bonne famille. Ceux-ci étaient conduits par les Alcméonides. Ces derniers ne reculèrent pas devant l'assassinat des Cyloniens, allant jusqu'à les tuer auprès des autels où ils s'étaient réfugiés. Ils y contractèrent une ineffaçable souillure. Il est possible que ces massacres et les troubles qui suivirent expliquent la rédaction par Dracon, vers 621, d'un code de loi. Ce code de loi semble avoir exposé au moins les lois sur le meurtre et les a codifiées de façon à mettre un terme aux vengeances privées de type vendetta en leur substituant la justice d'État. Mais ce code, essentiellement pénal, n'entamait en rien le pouvoir politique ou social des grandes familles. Alors semble-t-il que le spectre de l'esclavage pour dette menaçait une large partie de la population pauvre de l'Attique. Or, les troubles suscités par ceux qui se sentaient menacés furent suffisamment gênants pour que l'aristocratie accepte, semble-t-il, l'idée d'un compromis. Aussi, en 594-593, un eupatride, Solon, qui se refusait à la tyrannie mais qui était acquis à l'idée qu'il fallait améliorer le sort des plus misérables, se vit confier un archontat extraordinaire avec les pleins pouvoirs pour réformer la Constitution et mettre en place ce que l'on appelait l'eunomia, c'est-à-dire la bonne législation. Il supprima d'abord l'esclavage pour dette et fit libérer ceux qui avaient été réduits à cette situation à Athènes même, et même, dit-il, ceux qui avaient été vendus à l'étranger. Il supprima aussi une catégorie sociale qui, du coup, reste pour nous mystérieuse, la catégorie des ecthémores, qui doivent, pense-t-on, avoir été des paysans contraints à verser une partie de leur récolte à un créancier ou à un protecteur. Du coup, Solon mettait les plus pauvres à l'abri des mesures les plus dangereuses pour eux. Sans doute a-t-il aboli les dettes. Par contre, il s'est refusé au partage des terres, ce qui fait que les troubles ne disparurent pas avec sa réforme. On lui attribue aussi d'autres mesures, par exemple des mesures d'ordre économique, l'interdiction de l'exportation des denrées agricoles autres que l'huile, et l'adoption d'un système de poids et mesures faisant passer l'Attique du système éginétique au système euboïque plus léger. Sa réforme judiciaire est également importante. Désormais, à côté du conseil aristocratique de la Réopage, il existe un tribunal populaire, peut-être simplement l'assemblée du peuple siégeant au judiciaire, le tribunal dit de l'Élier. Et à terme, cette réforme devait avoir une grande portée. Enfin, on lui prête aussi la transformation du système de la société aristocratique, fondé, comme nous l'avons déjà dit, sur l'appartenance aux nobles familles, en un autre système liant droits et devoirs des citoyens à leur richesse, ce qui donnait une société moins bloquée. C'est ainsi que ce que l'on appelait désormais les pentacosiomédimnes, c'est-à-dire ceux qui avaient un revenu de 500 médimnes, et les hippeis, qui avaient un revenu de 300 médimnes, et qui avaient encore seul accès dans l'archonta, devaient aussi servir dans la cavalerie et fournir leur cheval. Ceux qui avaient 200 médimnes, qu'on appelait zeugites, servaient comme hoplites, et ils avaient droit aux magistratures subalternes. Enfin, ceux qui n'avaient rien, ou moins de 200 médimnes en tout cas, les têtes avaient seulement le droit de participer à l'ecclésia, c'est-à-dire de participer au choix des magistrats et à l'évolution de la loi, et peut-être de ce fait à la politique générale de la cité. En fait, c'est sans doute dans le fonctionnement de l'Élier qu'ils acquirent les nouveaux droits les plus tangibles. Les nouvelles lois furent gravées sur planches de bois et exposées pour que chacun pût en prendre connaissance. De toutes ces réformes, nous avons conservé quelques traces dans des fragments des poèmes de Solon que celui-ci écrivit justement pour présenter son action. Vous allez entendre quelques-uns de ces fragments.
Et moi, des desseins pour lesquels j'ai rassemblé le peuple, lequel ai-je abandonné avant de m'arrêter? J'en appelle au meilleur témoin devant la justice du temps, à l'auguste mère des divinités de l'Olympe, la terre noire, dont j'ai, moi, jadis arraché les bornes plantées en main lieu. Autrefois esclave, maintenant elle est libre. Nombreux ceux que j'ai ramenés à Athènes, leur patrie fondée par les dieux. On les avait vendus l'un contre, l'autre selon le droit. Les uns, qui, réduits à l'exil par une terrible contrainte, ne savaient même plus la langue attique tant ils avaient erré en tout lieu, les autres, qui, dans notre propre pays, subissaient un indigne esclavage et que l'humeur de leur maître faisait trembler, je leur ai rendu la liberté. Cela par le pouvoir de la loi, accordant la force et la justice, je l'ai fait et j'ai parcouru mon chemin comme je l'avais promis. J'ai rendu des arrêts également pour le bon et pour le méchant, accordant à chacun une droite justice. L'aiguillon, si un autre que moi l'avait pris, un homme pervers et avide, il n'aurait pas tenu le peuple en main. Car si j'avais voulu ce qu'un des groupes adverses désirait alors, ou au contraire ce que les autres leur souhaitaient, notre cité fut devenue veuve de nombreux hommes. Voilà pourquoi, de tous côtés déployant ma vigueur, j'ai fait front partout, comme un loup dans une meute de chiennes.
En fait, Solon se vante un peu. Car sa législation, malgré son importance, ne mit pas fin aux troubles. En effet, le problème le plus immédiat, c'était celui du dénuement d'une partie de la population à côté des importants domaines d'une autre partie. Aussi, la stasis ne disparut-elle pas immédiatement. Il y avait encore des troubles dans les années qui suivirent les réformes de Solon, et finalement, les troubles ne prirent fin qu'avec l'apparition de la tyrannie, facilité par les luttes pour le pouvoir des différentes factions aristocratiques. Au bout de quelque temps, en effet, on trouve trois clans rivalisant pour le pouvoir. L'un des clans est appelé Pédien, c'est-à-dire qu'il regroupe apparemment les riches propriétaires de la plaine, avec à leur tête Lycurgue, cependant qu'un autre clan prend le nom de Paralien, c'est-à-dire Jean de la Côte, et il a à sa tête Mégaclès l'Alcméonide, cette famille que nous avons déjà rencontrée à l'occasion de l'assassinat de Solon, qui avait dû partir en exil, mais qui était revenu, mais qui dès lors, du fait de la souillure, tient une place à part dans l'aristocratie athénienne. Et puis, comme il est normal dans ce genre de problème, apparaît un troisième larron, c'est-à-dire en l'occurrence un troisième groupe, celui qui s'appelle les Diacriens, ou gens de la montagne, regroupés autour de Pisistrate, qui avait ses terres dans la région de Brorone. Hérodote nous raconte que Pisistrate s'empara du pouvoir par ruse. Il se fit donner une garde de porte-massue et s'empara alors de l'acropole. Mais il dut bientôt partir. Aristote nous dit qu'il ne revint au pouvoir qu'après 11 ans et au prix d'une alliance avec Mégaclès, dont il épousa la fille. Mais cette alliance fut bientôt rompue et Pisistrate repartit une nouvelle fois pour l'exil. Mais cette fois, il avait compris. On ne devenait pas tyran comme cela. Et il prit les moyens nécessaires pour assurer son retour définitif. Il alla en Thrace se procurer les richesses qu'il lui fallait et se constitua ensuite une force armée groupée en Eubée, à partir d'où il débarqua en Attique où il vainquit ses adversaires et installa vers 545 définitivement son pouvoir. Bien qu'il mourût en 527, le régime lui survécut, exercé par ses fils jusqu'en 510. Mais écoutez plutôt comment Hérodote nous raconte l'histoire.
Un conflit divisait les Athéniens en deux parties, habitants de la côte contre ceux de la plaine. Le chef des premiers était Mégaclès, fils d'Alcméon, celui des gens de la plaine, Lycurgue, fils d'Aristolaïdès. Méditant la tyrannie, Pisistrate constitua un troisième parti. Il réunit des partisans, se déclara chef des montagnards et imagina le tour que voici. Il se blessa lui-même et ses mulets, puis lança son char au galop dans l'agora comme s'il venait d'échapper à ses ennemis qui, sur le chemin des champs, auraient tenté de l'assassiner. Et il demanda à l'assemblée du peuple de l'autoriser à recruter une garde. Il s'était auparavant acquis de la réputation comme chef de guerre contre les Mégariens. Il s'était emparé de Nisiaïa et avait obtenu d'autres grands résultats. L'assemblée du peuple athénien se laissa tromper et lui permit de recruter parmi les citoyens 300 hommes qui furent non pas les lanciers de Pisistrate, mais ses massiers. Armés de massues en bois, ils marchèrent à sa suite. Ils se révoltèrent avec Pisistrate et occupèrent l'acropole. Ensuite, Pisistrate imposa son pouvoir aux Athéniens, mais ni les magistratures existantes ne furent troublées, ni les pratiques du droit bouleversées. C'est en s'appuyant sur l'ordre établi qu'il gouverna la cité, et il y fit régner un ordre irréprochable. Mais peu de temps après, un accord rapprocha les partisans de Mégaclès et ceux de Lycurgue, et ils le chassèrent. C'est ainsi que Pisistrate se rendit une première fois maître d'Athènes. Sa tyrannie n'avait pas encore pu pousser de fortes racines quand il fut renversé, mais ses vainqueurs ne tardèrent pas à retomber dans leurs querelles et à se battre entre eux. S'étant brouillé avec son parti, Mégaclès fit demander à Pisistrate s'il consentirait à prendre sa fille pour femme. Il l'aiderait à rétablir sa tyrannie. Pisistrate accueille la proposition et passe marcher à ses conditions. Après quoi, ils imaginent pour son retour un subterfuge que je trouve d'une incroyable sottise, à supposer que nos compères aient bien vraiment à Athènes, dont les habitants se laissent dire les premiers des Grecs par la perspicacité, imaginé pareil subterfuge. Au bourg de Paiana, il y avait une personne appelée Fillet, d'une taille de 4 coudées, moins 3 doigts, et d'ailleurs jolie femme. Cette femme, ils l'affublèrent d'une tenue de combat, la firent monter sur un char, lui montrèrent comment elle devait se tenir pour avoir l'air le plus imposant, puis ils la conduisirent en ville. En avant-garde, ils avaient envoyé des héros et leur avaient donné ordre de répéter, une fois en ville, la proclamation suivante. « Athéniens, accueillez avec faveur Pisistrate, Athéna elle-même, qui l'honore entre tous les hommes, le ramène sur sa propre acropole. » Les héros allaient dans tous les quartiers tambouriner leur annonce. Aussitôt, dans les villages, le bruit se répandit qu'Athéna ramenait Pisistrate. Les citadins, persuadés que Fiet était la déesse en personne, adressaient des prières à cette femme et accueillirent Pisistrate. Celui-ci recouvre donc la tyrannie, comme je viens de le dire, et conformément au marché passé avec Mégaclès, il épouse sa fille. Mais les fils qu'il avait grandissaient, et on racontait qu'une malédiction pesait sur les Alcméonides. Ne voulant pas avoir d'enfant de sa nouvelle épouse, il n'avait avec elle que des rapports contraires à la loi. Tout d'abord, le secret fut gardé par la femme, puis, questionnée ou non, elle l'avoua à sa mère, qui en parla à son mari. Celui-ci conçut un vif ressentiment de l'injure que lui faisait Pisistrate. Dans sa colère, il oublia sa haine contre ses partisans. Apprenant ce qui se tramait contre lui, Pisistrate évacua complètement le pays. Il se réfugia à Érétrie, où il tint conseil avec ses fils. Hippias fit prévaloir son opinion, qui était de recouvrer la tyrannie. Après quoi, ils s'efforcèrent de rassembler des dons dans les cités qui avaient des obligations à leur égard. Beaucoup leur accordèrent des sommes considérables. Les Thébains l'emportèrent à ce jeu, et ce sont eux qui donnèrent le plus d'argent. Puis, pour le dire en bref, le temps passa, et tout se trouva prêt pour leur retour. Des mercenaires d'Argos vinrent du Péloponnèse, un Axien se joignit à eux en volontaire. Il s'appelait Lygdamis et montrait un grand dynamisme, fournissant fonds et hommes. D'Érétrie, leur base, ils débarquèrent dans le courant de la 11e année. Le premier territoire dont ils se saisirent en Attique fut Marathon. Tandis qu'ils campaient en cet endroit, leurs partisans de la ville les y rejoignirent et d'autres, venant des villages, y affluèrent. À leurs yeux, la tyrannie valait mieux que la liberté. Il se forma ainsi un attroupement. Quant aux Athéniens de la ville, tant que Pisistrate collectait des fonds, puis lorsqu'il eut pris Marathon, ils n'en avaient cure. Mais ensuite, ils apprirent que de Marathon, ils marchaient sur la ville. C'est pourquoi ils se portèrent contre lui. Toute force mobilisée, ils se dirigeaient contre les exilés de retour. De leur côté, les troupes de Pisistrate, parties de leur base de Marathon, se dirigeaient vers la ville. Allant à la rencontre de leurs adversaires, elles arrivèrent à un sanctuaire d'Athéna Pellénis et face à eux y prirent position. Là, une inspiration divine précipita chez Pisistrate l'arcananien Amphilitos, un expert en divinisation. Se présentant devant lui, Il vaticina en vers hexamètre la prophétie suivante. Le filet est jeté, les raies sont déployées. Les thons s'y élanceront pendant que la lune éclairera la nuit. Il était sous l'emprise des dieux pour proférer cet oracle. Pisistrate, lui, comprit le sens de la prophétie et déclara accepter la prédiction, puis fit avancer son armée. Les Athéniens étaient allés à la soupe juste à ce moment-là, et après la soupe, quelques-uns jouaient au dé ou faisaient la sieste. Les troupes de Pisistrate leur tombent dessus et les mettent en déroute. Pendant qu'ils s'enfuyaient, une idée très habile vint à l'esprit de Pisistrate pour les empêcher de s'attrouper de nouveau et les tenir dispersés. Il fit monter ses fils à cheval et les fit partir devant. Quand ils rattrapèrent les fuyards, ils les invitèrent, selon les ordres de Pisistrate, à se remettre de leurs émotions et à rentrer chacun chez soi. Les Athéniens se laissèrent faire. Ainsi, Pisistrate, pour la troisième fois, se trouva maître d'Athènes. Il enracina la tyrannie en l'appuyant sur de nombreux mercenaires et des revenus monétaires qui provenaient soit du pays même, soit du Strymon. Il prit aussi en otage les fils de ses adversaires athéniens restés sur place au lieu de partir, aussitôt pour l'exil, et il les établit à Naxos, car Pisistrate soumit cette île et la confia à Lygdamis. Outre cela encore, il purifia l'île de Délos selon les oracles, et il le fit de la manière suivante. Dans la limite de l'horizon que l'on a du sanctuaire, partout il fit déterrer les morts et les fit transporter dans une autre partie de Délos. Ainsi, Pisistrate était tyran d'Athènes, et parmi les Athéniens, les uns étaient tombés sur le champ de bataille, les autres, avec les Alcméonides, vivaient en exil, hors de leur patrie.
Pour vous raconter la prise du pouvoir par Pisistrate, j'ai préféré laisser la parole à ce merveilleux conteur qu'est Hérodote. Il eût été difficile de raconter les choses d'une façon plus agréable. Cependant, revenons à l'histoire. En fait, Hérodote, qui vit au milieu du 5e siècle, ne comprend pas très bien pourquoi les Athéniens ont laissé s'établir la tyrannie. Mais vous voyez malgré tout que d'après ces informations, il semble que Pisistrate ait été bien accueilli par la masse de ce que l'on appelle le démos ou le peuple. Et effectivement, la tradition a gardé de lui le souvenir d'un bon tyran. Il semble avoir laissé fonctionner la législation solonienne, se contentant de contrôler les nominations des magistrats. Mais il chercha aussi à améliorer la vie du peuple. Pour cela, il disposait d'un revenu considéré par les Grecs comme parfaitement tyrannique, l'impôt de la dîme. Cela lui permit d'avoir en permanence de l'argent pour faire des prêts aux petits paysans de façon à éviter la concentration foncière et peut-être permettre une meilleure adaptation des cultures au sol de l'Attique en permettant de remplacer sur les mauvaises terres sèches et rocailleuses les cultures de céréales par les cultures plus rentables de la vigne ou de l'olivier. Il favorisa aussi l'entreprise de Milciade en Chersonèse de façon à avoir des blés à bas prix. Enfin, dans le domaine économique, il fut celui qui fit frapper les premières chouettes, c'est-à-dire les premières monnaies athéniennes, à l'effigie d'Athéna et de son emblème, qui devinrent bientôt monnaie internationale du fait du bon aloi que garda toujours la monnaie d'Athènes, étant donné qu'Athènes pouvait produire elle-même l'argent de ses monnaies. Enfin, Pisistrate et ses fils furent les protecteurs des arts et des lettres. Ils eurent une politique d'embellissement de la cité, toujours grâce à ce revenu permanent que leur fournissait la dîme, et c'est ainsi qu'ils entreprirent l'aménagement de l'Acropole, y construisant un premier grand temple d'Athéna Parthénos. Ils construisirent aussi, sur l'Agora, la grande fontaine aux neuf bouches. Et enfin, dans une espèce de véritable cour, ils accueillirent poètes ou sculpteurs. C'est à eux, nous dit la tradition, que l'on doit la première édition soignée des poèmes homériques. Enfin, ils développèrent à Athènes certains cultes particulièrement bien choisis. Ils mirent l'accent sur le culte d'Athéna, la déesse Polyade, la déesse de l'unité politique de l'ensemble de l'Attique par excellence, déesse de l'Acropole, et ils donnèrent beaucoup d'éclat à ces fêtes en créant les grandes panathénées. Mais ils développèrent aussi les fêtes de Dionysos, dieu de la vigne, dieu des ruraux. Et c'est dans ces fêtes de Dionysos, vers cette époque, que naquit, dit-on, le théâtre. Enfin, ils développèrent aussi les fêtes de Déméter et de Corée à Éleusis, culte agraire certes, mais aussi culte à mystère. Je vous ai déjà dit que les fils de Pisistrate lui succédèrent sans encombre après sa mort. Ils étaient deux, Hippias et Hipparque, qui gouvernaient de concert, Hipparque semble-t-il s'intéressant plutôt aux arts et à tout ce qui entoure les arts. Mais Hipparque fut assassiné en 514 pour une sombre histoire de rivalité amoureuse, et Hippias se mit à devenir méfiant vis-à-vis des membres de l'aristocratie qui durent, pour la plupart, reprendre le chemin de l'exil. Exaspérés, les aristocrates firent appel à l'aide extérieure, celle de Sparte, pour se débarrasser du tyran. Seulement, une fois le tyran tombé, ils reprirent immédiatement leur lutte de factions pour savoir qui s'emparerait du pouvoir. L'Alcméonide Clisthène, fils de Mégaclès, s'opposait effectivement à Isagoras, l'ami de Cléomène, le roi de Sparte. Celui-ci aida Isagoras à se faire élire archonte en 508. Mais Clisthène s'appuya sur le peuple, peut-être irrité par la présence de l'armée spartiate sur son sol, et, avec l'aide du peuple athénien, il réussit à enfermer les partisans d'Isagoras et les Spartiates dans l'acropole et à les faire capituler. Or, Clisthène était le petit-fils de Clisthène, tyran de Sicyone, tyran réformateur. Et il entreprit immédiatement une réforme profonde du système politique athénien. La vie politique allait désormais se dérouler non plus dans le cadre des anciennes structures, mais dans celui de 10 tribus créées de toutes pièces, regroupant chacune une portion des 3 types de territoires de l'Attique, sous la forme de triti urbaine, triti de la côte et triti de l'intérieur. Il laissait certes subsister les anciens cadres religieux archaïques, mais l'organisation politique et militaire fut désormais tout entière organisée à partir de ces 10 nouvelles tribus. Les membres de ces tribus combattaient côte à côte, chaque tribu fournissait 50 bouleutes et un archonte, dont le nombre était donc porté de 9 à 10, pour s'aligner sur la réforme. La boulée des 500, formée par les 50 archontes multipliés par 10, était une création importante. En effet, elle était démocratiquement choisie, c'est-à-dire que ses membres étaient tirés au sort sur des listes de candidats. Et cette boulée allait remplacer l'aréopage petit à petit dans l'essentiel de ses fonctions. La réforme de Clisthène transformait donc entièrement l'espace civique et politique athénien. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on ne sait rien sur ce que devint Clisthène après ses réformes. On a des indications sur lui avant, sous les Pisistratides, mais après, on ne sait pas. Peut-être mourut-il rapidement après sa prise de pouvoir. Ce qui est certain, c'est que c'est là que se mettent en place les rouages politiques de la démocratie athénienne. Le système fut complété vers 500 par la création de 10 stratèges élus pour exercer le commandement militaire, et les archontes de ce fait vont être de plus en plus cantonnés dans les fonctions judiciaires. On ne sait pas exactement de quand date une loi très importante, la loi sur l'ostracisme, qu'Aristote attribue aussi à Clisthène, mais qu'on ne voit fonctionner pour la première fois qu'en 488-487. Désormais, les principaux rouages du système athénien sont en place. Il aura fallu pour cela une constante évolution durant 150 ans, avec la recherche de solutions constitutionnelles et non pas celles plus immédiates du partage des terres, de la colonisation ou de la conquête. C'est dans cette quête obstinée que se situe la particularité et l'apport du système athénien.
C'était un cours destiné aux étudiants de première et seconde année, fait par Jacqueline Christian, professeure à l'Université de Paris 10 Nanterre.